Seigneur, nous voulons te remercier d'être ici présent pour entendre ce que tu as à nous dire à chacun. Seigneur, nous voudrions aussi nous placer sous ton précieux sang pour qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher de nous parler. Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts à ce que tu as à nous dire, que nous ayons des cœurs qui aient vraiment le désir de mettre en pratique ce que tu nous montres, ce que tu nous dis. Nous avons besoin encore de toi ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons te faire confiance pour ces moments, te demander de les diriger. Nous te remettons tous ceux qui n'ont pu venir ce soir. Là aussi, nous te demandons aussi de leur parler, de les conduire. Seigneur, merci encore de pouvoir te faire confiance pour toutes choses. Amen. Alors ce soir, on va prendre une pensée mais qui est tirée d'un psaume qu'on va lire, le psaume 32, que vous ne connaissez certainement pas. Le psaume 32, qu'on va lire en entier, ce n'est pas un psaume très long. Un psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, bon, on sait que ça nous est dit que ce psaume a été écrit lors d'un péché de David qu'il a confessé. Mais on va un petit peu parler de ça, mais ce n'est pas ça qui importe. On voit que là, en fait, il y a un avant, puis un après. Alors souvent, on voit l'après. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est heureux, par deux fois, au verset 1, au verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point l'iniquité. Et puis au verset 1, heureux à celui à qui la transgression est remise. Au verset 7, il nous est dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et puis au verset 11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà un chrétien qui est environné de la grâce du Seigneur. Un chrétien qui est dans la joie. Donc tout est parfait. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a vu l'après, mais il y avait un avant. Et là, c'était autre chose. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Verset 4. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. C'est quelque chose qui est quand même terrible. Et ma vigueur, là, au verset 4, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Il n'y a plus d'eau. Alors, qu'est-ce qui a changé? Les circonstances? On sait que rien dans les circonstances n'a changé. On ne sait pas, par contre, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ce psaume a été écrit, sinon que c'était au cours d'un péché que David a commis. On n'est pas comme dans le psaume 51, où on sait que là, c'est parce qu'il avait tué son général Uri et puis qu'il avait pris sa femme. Mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que tout a changé dans son cœur lorsque lui, David, a changé d'attitude. Il dit « J'ai dit ». Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. C'est moi qui ai changé. Toute l'atmosphère a complètement été différente. L'état du cœur de David s'est complètement transformé parce qu'il a avoué son péché, qu'il a été lavé de son iniquité, qu'il a été pardonné. Et il y a tant d'exemples dans la parole où tout change, uniquement en raison de la position du cœur de l'homme, quelle que soit la situation, si dramatique, voire catastrophique soit-elle. Dans le Nouveau Testament, On a l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse qui va sur cette seule parole, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Quand le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Eh bien, cet homme qui est un persécuteur, il va être transformé en le plus grand apôtre que la terre ait connu. Quelque chose d'incroyable. Le brigand sur la croix. Cet homme qui était probablement un meurtrier, à qui le Seigneur va dire aujourd'hui, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Et ça dépend de quoi ? Parce que cet homme a reconnu dans le Seigneur Jésus, le roi, le Seigneur, celui qui le lavait de son péché. Zachée, percepteur d'impôts pour les Romains. Un collabo ? C'est un collabo ? Il va me dire, vous, en 35, enfin en 40, après la guerre, après la libération, le sort de ce gaillard, d'un Zachée, ben, il n'aurait pas été gracié, comme le Seigneur l'a touché. Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Et Zachée a été complètement transformé. Voilà l'état du cœur, comment il se transforme quand un homme prend la décision. Il y a une révélation, évidemment. Ça, c'est un miracle. Mais quand un homme prend la décision, lui-même, de par sa propre volonté, de regarder au Seigneur, de le reconnaître en tant que roi, en tant que sauveur et Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi des exemples qui nous montrent que tout peut changer, mais uniquement en raison d'une prise de position ou d'un homme ou du peuple qui prend position de s'humilier devant son Dieu. Du temps de Salomon, on va lire ce qu'il nous a dit. On connaît là aussi ce passage dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, et on va lire les versets 11 à 22. Deux Chroniques 7, versets 11 à 22. Donc c'est après la prière de Salomon. Hein. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, vous voyez les circonstances, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, la conséquence, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? Elle leur répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Il y a tellement de si là, tellement de conditions, mais qui vont entraîner des conséquences soit merveilleuses, soit désastreuses. Tout cela pour arriver à une chose. Je ne suis pas là pour dire si telle ou telle situation que vous traversez est dû au péché. On l'a souvent évoqué par le passé. Il est dit circonstances que nous tous traversons, que le Seigneur a permises pour nous faire grandir en lui, pour fortifier notre foi, afin que notre foi ne repose pas sur nos états d'âme, sur les circonstances, mais sur notre Dieu uniquement et sur ce qu'il a dit. Pourquoi ? Et c'est là ce qu'il nous faut tout à nouveau voir. Et c'est là que j'ai été éclairé dans ce psaume. Parce que, en fait, ce qui a changé, c'est le cœur de David. Mais il y en a un qui ne change pas. Et c'est ça qu'on va voir. Et c'est ça que moi, souvent, et peut-être vous, on perd de vue. On a un Dieu qui ne change pas. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 17, il est dit, je vous le lis, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quels que soient les événements, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, notre Dieu est le Dieu de vérité, celui qui ne change pas. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Si vous prenez l'alphabet grec, puis si vous le transposez en français, si le Seigneur dit « Je suis le A et le Z », eh bien vous avez tout l'alphabet. Donc, ne cherchons pas ailleurs. Il est tout. Il a tout en lui. Tout est fait pour lui. Ce que je perds souvent de vue, c'est lorsque l'on traverse des situations qui sont parfois dramatiques, on perd de vue qui il est vraiment. Dans l'épître de la première de Jean, au chapitre 5, les versets 20 et 21, il nous est dit, là encore, je vous les lis, mais vous pouvez le prendre si vous voulez, 1 Jean 5, versets 20 et 21, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Trois fois, il dit « véritable ». Jésus est le véritable, celui qui détient la vérité. Est-ce qu'on s'en rend compte systématiquement à chaque fois que nous sommes dans le feu de l'épreuve, dans le creuset ? Souvent, lorsqu'une épreuve survient, moi je regarde à l'épreuve, à la souffrance que je ressens, dans l'attente d'une réponse qui ne vient pas, je me lasse, je me décourage, je prie le Seigneur, et vous, je pense que vous le faites, j'en suis sûr, aussi ardemment, même en acceptant la situation, en disant même, on le dit tellement souvent dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, je vais souvent le dire aux autres. Je me dis à moi-même, mais je ne le vois pas vraiment. Je le comprends d'une façon intellectuelle, mais mon cœur ne le comprend pas réellement. Pourquoi ? Je suis sincère. Mais dans cette situation, je perds de vue que notre Seigneur est toujours le même, qu'il n'a pas changé et que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Lorsque nous avons péché, nous faisons tous, comme dans le psaume 32, nous faisons tous l'expérience que lorsque nous sommes dans le péché, le ciel est fermé. Il y a un ciel de plomb, une chape qui pèse sur nous. Nous sommes malheureux, tristes, parce que le Seigneur nous a coupé l'accès. Et dès que nous allons vers lui, confesser notre faute, qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûr, absolument convaincu, que tous vous expérimentez cela. Immédiatement, nous sommes libérés. Comme le psalmiste dit dans le psaume 32, la joie, elle fait place à la tristesse. La paix, elle remplace l'angoisse. Mais c'est un véritable miracle. On est tellement habitué à ça. Mais c'est un miracle extraordinaire. Le sacrifice du Seigneur Jésus qui a été réalisé il y a plus de 2000 ans, il est toujours aussi efficace, toujours actuel pour nous libérer. Quoi de plus merveilleux que d'expérimenter que nous sommes graciés par les vertus du sang du Seigneur Jésus versé sur la croix. Il s'agit de quelque chose d'incroyable, que nous croyons pourtant tous et que nous vivons pourtant tous, tout simplement par le moyen de la foi au sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. C'est quelque chose d'inimaginable qui se réalise à chaque fois. Alors que dans une épreuve permise par le Seigneur, il m'est parfois beaucoup plus difficile que je vais m'en sortir et qu'il y a une issue. Et pourtant, Romains 8, versets 32 à 34, c'est encore des versets que nous connaissons tellement. On va les lire. Romains 8, versets 32 à 34. Il nous est dit que notre Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous vous rendez compte de cela? Tout simplement, quand je traverse une épreuve, j'ai besoin tout à nouveau de savoir que mon Dieu est vivant, qu'il ne change pas, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour moi. Et ça nous arrive de perdre ça de vue. Et on perd les pédales dans ces cas-là. On voit l'épreuve, on voit le début, puis on n'en voit pas la fin. Mais quelque part, et on va voir un exemple, dans l'Ancien Testament, dans les derniers chapitres d'Ésaïe, l'état du peuple, il est catastrophique. Ils sont dans une détresse épouvantable. Il y a des cendres partout. Il y a des morts partout. Une désolation, mais catastrophique. Comme du temps de Jérémie. Et là, c'est parce que le peuple s'est détourné des voies de son Dieu qu'il a attiré son jugement. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe au chapitre 65, et on va prendre les versets 16 à 18. Ésaïe 65, versets 16 à 18. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Imaginez-vous au milieu du peuple dans une désolation extrême, puis que le Seigneur vous dise ça. Vous dites, c'est pas pour moi. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, le Seigneur nous dit de nous réjouir. Parce que lui, il ne voit pas les circonstances. Il voit bien au-delà. Dans une période d'éloignement du peuple, à cause de son péché, le Seigneur lui promet la bénédiction. Quelle est la condition? Mais quel est du prix, tout simplement? Celui qui voudra être béni. C'est un terme simple, hein? Et puis tout est là, pour chacun d'entre nous. Celui qui veut. Ne nous demande pas de pouvoir. Je ne peux pas être béni tout seul, moi. Je ne peux pas me bénir. Mais le Seigneur le veut. Mais il suffit que je lui demande et que je le veuille. Ésaü, il n'a pas été béni pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Vous vous rendez compte? La bénédiction n'avait pas de prix pour lui. Il l'a payé très cher. Il était éloigné de la promesse. Mais celui qui veut être béni dans le pays voudra l'être par qui? Par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. On ne se rappellera plus les choses passées. Le Seigneur montre son but, là, non pas l'état actuel de son peuple, mais ce qu'il veut en faire, où il veut l'amener, où il veut nous amener. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 18, il nous est dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image ». De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Si je vous appelle chacun par votre prénom, j'ai dit, tu vas être transformé. Tu es transformé à l'image du Seigneur. Voilà son but. Voilà son but. Voilà ce qu'il veut qu'on regarde. Non pas au passage que nous sommes en train de traverser, qui nous semble parfois sans raison, puis parfois sans limite. Mais lui veut nous emmener beaucoup plus loin. Colossiens 1, versets 21-22, il nous est dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, dans le but pour vous faire paraître à peu près correct. Non, devant lui. Mais imaginez ces mots, saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà le but de notre Seigneur, pour chacun de vous, pour toi. C'est ce qu'il veut. Et c'est ça que nous devons regarder, c'est ça que je dois regarder. Nous avons reçu une parole récemment qui nous disait dans Hébreux 12 d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'était il y a quelques dimanches. Regarder à Jésus, c'est regarder aussi dans la même direction que lui. Là où il veut nous emmener. Rendez-vous compte, l'apôtre Pierre des Évangiles et puis l'apôtre Pierre des Actes. Le Seigneur lui a dit qu'il allait l'emmener où il n'aurait pas, où il ne voulait pas. Et pourtant, est-ce que le Pierre des Actes est plus malheureux que le Simon des Évangiles, ou est-ce qu'il est plus heureux? Est-ce que le Saul de Tarse ou le Paul des Actes qui fait... Quel est celui qui fait envie? Saul de Tarse ou Paul? Quel est celui qui respire la joie au lieu de respirer la menace et le meurtre? On se rend compte de cette transformation. Et pourtant, au début, la situation, elle est épouvantable. Regardez ce Saul de Tarse qui est en train de traquer les chrétiens pour les faire mourir. Il a approuvé le meurtre d'Étienne quand même. Hein. Moi, si c'était moi, je n'aurais pas aimé qu'on meure que ça dans la Bible. Hein. Eh bien, on sait tout. Le Seigneur nous le dit. Il nous dit qui c'était ce Saul de Tarse. Et regardez ce qu'il en a fait. C'est Christ qui vit en moi. Voilà où il l'a amené. Alors, c'est pour chacun d'entre nous. Et on va encore prendre pour terminer un passage là, qui nous montre là aussi l'espérance du temps de Jérémie. Là, c'est pareil, hein, le peuple, il ne faisait pas envie. Hein. Et là encore, c'est à cause de son péché. Et on va voir un petit peu dans le chapitre 29 de Jérémie, on va prendre les versets 1 à 7. Jérémie 29, versets 1 à 7. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Bon, ils ne sont pas dans un état extraordinaire, hein, ils sont prisonniers de guerre. Kriegsgefangener, on disait, en 39-45. Donc imaginez-vous à la place de ces gens. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Chaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem, Là, il nous montre que c'est bien sous un jugement que le Seigneur a permis cela. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Il parle de bonheur. Il y a toujours des conditions. Mais vous vous rendez compte, dans ces conditions pareilles, le Seigneur leur dit « plantez, faites des enfants ». Ça veut dire qu'il y a un espoir. Et puis quand on prend encore l'église de la Laodicée, vous vous rendez compte, cette église, parce que tu es misérable, aveugle et nu, j'en oublie un, pauvre, mais qu'elle ne voit rien. Elle ne se rend pas compte de son état. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur lui promet? On va peut-être le prendre, ces versets dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Voilà, c'est fini, hein. Il n'y a plus d'espoir. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Eh bien, il y a un conseil. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, c'est à Laodicée qui dit ça, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Vous vous rendez compte? Alors qu'on peut dire, dans cet état-là, il n'y a absolument pas d'espoir. Parce que Laodicée a péché. Mais on est d'accord quand il s'agit d'un péché, et quand il s'agit d'une épreuve permise par le Seigneur, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur qui permet des épreuves dans nos vies pour nous faire avancer. En fait, il est en train de nous dire, « Mais mon fils, fais-moi confiance. Moi, je connais le chemin. Je veux t'emmener là, peut-être, où tu ne voudrais pas, probablement. Mais tu ne vas pas le regretter. » C'est ce qu'il nous a dit au psaume 139, les premiers versets, je vous les lis. C'est David encore qui parle. « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Il est le Dieu de vérité. Il est celui qui sait tout. » Alors, faisons-lui confiance. Vous avez vu quand on a lu où il dit, dans 2 Chroniques, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?» Pour chacun d'entre nous, c'est le cas. Parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes convertis. Parce que nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, son nom est invoqué sur nous. Alors, marchons avec confiance. Quelle que soit notre situation, il la connaît, il la maîtrise, et dans le but de nous emmener là où il veut nous emmener, c'est-à-dire saint, irrépréhensible dans la gloire. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.